tu vas aller. Allez mon grand. Allez mon grand. T'es grand aujourd'hui. T'es grand.
Muscle ton jeu. Muscle ton jeu, Robert. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Je t'assure, tu vas voir. Tu vas avoir des déconvenues parce que t'es trop gentil.
On m'en fout ce qui arrive en deuxième mi-temps, même si on perd, au moins on joue avec notre fierté. Et on joue dur. Après on perd, c'est pas grave, c'est la vie. Mais moi je préfère perdre qu'en en se battant.
Bonjour à nos sportifs et à nos sportives, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode des athlètes, qui sera peut-être le dernier de la saison.
Oh non.
Alors, au menu, qu'est-ce qu'on a ? Aujourd'hui, je vous ferai un nouveau portrait d'une athlète que j'apprécie énormément. Puis, on retrouve notre très cher PA.
Bonjour, bonjour.
Qui va vous faire une nouvelle chronique sur les JO et va vous parler de la natation. Et enfin, comme d'habitude, on fera un nouveau point sur l'actualité du sport avec un invité surprise. Attends, est-ce que t'es prêt, PA ?
Bien sûr que je suis prêt.
Allez, c'est parti. Alors, aujourd'hui, en rapport d'ailleurs avec l'actualité, parce qu'on est en plein Roland-Garros, je vais vous parler d'Amélie Mauresmo, la directrice du tournoi. Parce que oui, Amélie Mauresmo, c'est avant tout une ancienne numéro 1 mondiale et la dernière française numéro 1 mondiale, tout simplement, garçons et femmes confondus. Alors, petit point sur son palmarès, Amélie, c'est avant tout 25 titres en simple sur un tournoi WTA, dont 3 tournois majeurs, l'Open d'Australie, Wimbledon en 2006 et le Master en 2005. Mais aussi, c'est une médaille d'argent aux Jeux d'Athènes en 2004. Elle s'est fait connaître sur la scène internationale en 1999, à seulement 19 ans, en atteignant la finale de l'Open d'Australie où elle s'incline face à Martina Hingis. Ce tournoi marque le début de sa reconnaissance mondiale. Elle avait un style de jeu très polyvalent. Dotée d'une grande force physique, ses coups des deux côtés étaient si puissants et elle avait une aptitude exceptionnelle à varier son jeu. Polyvalente sur toutes les surfaces, le gazon était tout de même là où elle était la plus redoutable. Terrain parfait pour ses volées, une technique de frappe qu'elle maîtrisait parfaitement. La carrière de la joueuse n'a pas été un long fleuve tranquille. Entre les nombreuses blessures dès le début des années 2000 qui l'ont forcée à faire des pauses prolongées, affectant son classement et sa qualité de jeu. Par exemple, en 2006, après une année triomphante, elle a été frappée par une appendicite aiguë qui a nécessité une intervention chirurgicale et l'a éloignée des courts pendant plusieurs mois. Elle a été énormément critiquée sur son physique aussi, notamment par ses adversaires. Alors je cite « Parfois, j'avais vraiment l'impression de jouer contre un garçon. Elle frappe si fort, si dur, elle a l'air si costaud. Elle a de telles épaules, mais elle joue très bien », observe l'américaine Lindsay Davenport. Et elle a été également pionnière en assumant publiquement son homosexualité en public. Un geste si rare à l'époque et si audacieux, alors que dans les années 90, le monde du sport était très conservateur et l'est encore énormément maintenant. Alors je cite « Sylvie ne m'a pas forcée. J'en avais envie. Je n'ai pas hésité. C'était un pas difficile à faire. Je me suis dit « ça va être le bordel ». Et j'ai pensé que cela pouvait aider certaines personnes, bien que je n'ai aucune envie d'être le porte-parole de quoi que ce soit. Sauf de la tolérance », a-t-elle expliqué lors d'une conférence de presse. Dans le milieu sportif, elle a reçu pas mal de haine comme sa principale adversaire, Martina Hingis, qui a fait une remarque controversée lors d'une conférence de presse en qualifiant Mauresmo de demi-homme, en référence à sa musculature et à son orientation sexuelle. Bien que Hingis se soit plus tard excusée, cette déclaration a mis en évidence les préjugés et stéréotypes encore présents à l'époque, et qu'ils le sont encore beaucoup. Mais elle ne s'est pas laissée démonter face à toutes ces critiques et elle ne regrette pas d'avoir révélé son homosexualité. Bref, Amélie Mauresmo, c'est un modèle à suivre pour son courage, sa résilience et son talent. Maintenant, elle est directrice de Roland-Garros. Elle permet au tournoi de continuer de se développer et de s'adapter aux défis contemporains, notamment en matière de parité et d'innovation. Bien, maintenant, je laisse la place à PA. Allez, let's go.
Bon, a priori, c'est le dernier épisode de la saison. Malgré le fait qu'on vous prépare quelques petites surprises pendant l'été. Donc dernière fois que vous entendrez ma douce voix, profitez bien. Aujourd'hui, comme je vous l'ai spoil dans le dernier épisode, allez l'écouter si c'est pas déjà fait, on va parler de natation. Comme ça, on aura fait globalement le tour. Non, c'est pas vrai, on n'a pas parlé de hockey sur gazon. Oh pardon, madame, désolé. Alors oui, par rapport à ce qui vient de se passer là, sachez que c'est le dernier épisode, donc je vais un peu me lâcher et tous les gags que j'ai pas pu faire jusqu'à présent, bah ils seront dans cet épisode. Comme je le disais, aujourd'hui on va parler des sports d'eau, ce qui inclut le water polo et si j'ai le temps, l'aviron, le kayak. Alors, comme la dernière fois en athlétisme, il y a beaucoup, beaucoup de catégories. Donc là encore, on va parler que de ceux qui nous intéressent parce qu'on est égoïste. Gnarc, gnarc, gnarc. D'abord, notre star, le marchand de rêve. Léon Marchand. Bim, premier jeu de mots, vous étiez pas prêts. Le Français de 22 ans est tout simplement le boss du papillon mondial. Il est déjà 5 fois champion du monde, a des records du monde à foison, dont celui du 400 mètres 4 nages qu'il a récupéré à un certain Michael Phelps lors des mondiaux de Fukuoka en 2023. Et cette année, il continue. Il est juste en train de casser le championnat universitaire américain. Je vais simplifier, mais en gros, il a ramené encore d'autres records du monde dans des plus petits bassins et il a gagné le championnat. Tout ça, ça fait qu'il va passer officiellement pro en septembre. Autrement dit, sauf gros incident, le Français va nous ramener des médailles, plusieurs et a priori en or. Ensuite, celui qui n'a pas besoin de montre à gousset pour arriver à l'heure, Maxime Grousset. Le Français de 25 ans a littéralement explosé depuis l'été dernier où il a connu la consécration et le titre mondial sur le 100 mètres papillon. Il sera forcément très ambitieux pour les Jeux et il peut. En mars dernier, au cœur d'une grosse période de préparation, il a fini deuxième du Giant Open de Nice derrière le Suisse Noé Ponti, ce qui est plutôt de bon augure pour cet été. Globalement, là, la chenille est en train de devenir papillon. Ensuite, Florent Manaudou. Le champion olympique de Londres a envie de regagner un titre olympique après un passage par le handball et une médaille d'argent à Tokyo. En vrai, il peut. Hein. En 2023, il effectue la meilleure performance de l'année sur 50 mètres nage libre, confirmant son retour au top. Alors par contre, il faut savoir que pour l'instant, aucun des loulous dont on a parlé n'est qualifié, puisque la Fédération de Natation a fixé la date pour les quotas de qualification au championnat de France, du 16 au 21 juin. Comme la dernière fois, on va maintenant parler des gros poissons qui seront présents à Paris, c'est-à-dire des gros favoris. Déjà, il y a Cathy Ledecky. 7 médailles d'or olympiques, et elle est la nageuse la plus titrée de l'histoire des mondiaux, hommes et femmes confondus, avec ses 16 titres individuels en 6 participations, je vous laisse faire le ratio. L'Australienne est la spécialiste des épreuves de nage libre longue distance, et bon, étant donné qu'elle n'a que 27 ans, elle peut encore ramener 2 ou 3 titres olympiques à Paris. Ensuite, il y a Kayleigh McCown. Elle aussi, dans sa discipline, c'est la boss. Quadruple championne du monde et triple championne olympique. Elle aussi est australienne et est plus dans les disciplines du dos, où elle a été titrée sur 50, 100 et 200 mètres, et du 4 nages, notamment en 4x100 mètres. Comme sa compatriote, elle est encore jeune, puisqu'elle a 22 ans. Donc si elle continue comme ça pendant 10 ans, ça va pas être très fun pour les autres en fait. Et enfin, on va parler de Qin Haiyang. Le chinois s'est révélé lors des mondiaux de Fukuoka dont on a déjà parlé, devenant ainsi le premier homme de l'histoire à remporter les 3 épreuves de brasse lors d'une même édition des mondiaux. Donc globalement, il a explosé. D'abord aux yeux du grand public, mais aussi ses adversaires, avec un record du monde sur 200 mètres à la clé. Autrement dit, il sera une des grosses attractions des épreuves de natation de Paris 2024. Bon, c'est bien, on a fait plouf, mais maintenant on va aller voir les gens qui font plouf, mais mieux. Le plongeon. Là, on va pas faire très long, globalement, c'est les Chinois qui surdominent la discipline, et en France, on a assez peu de chances de ramener des médailles, même si Alexis Jandard, qui a chuté lors de l'inauguration de la piscine olympique, pourrait ramener la médaille du plus rigolo, mais je crois qu'elle n'existe pas. Là, on peut espérer une médaille, c'est en plongeon synchronisé, où notre gendarme national, et pas gendarme, hein, parce que c'est pas la même chose, a ramené une médaille de bronze lors des mondiaux de 2023, en compagnie de l'autre grand plongeur français, Jules Bouillet. Maintenant, la natation synchronisée. La France pourrait jouer un podium dans quelques catégories. Alors, je vais pas faire genre, je m'y connais pas de ouf en natation synchronisée. Oui, bah ça va en fait, je suis pas une encyclopédie, je suis un homme, j'ai mes lacunes comme tout le monde. Donc si ça vous intéresse, je ne peux que vous inviter à vous renseigner sur le sujet. En plus, on a encore pas mal de trucs à traiter. Moi, je vais me contenter, entre guillemets, de vous expliquer les différentes catégories. Déjà, on a les hommes et les femmes, en solo, en duo ou en équipe, de 8 à 10. Jusque-là, bon, ça va. Mais ensuite, dans chaque compétition, on a deux parties. D'une part, l'épreuve technique, où le jury va imposer des figures aux nageuses qui devront les réaliser. Puis on a le programme libre, où les équipes et leurs entraîneurs créent leur propre chorégraphie dans un laps de temps défini. Donc encore une fois, je vous invite vivement à vous y intéresser, on va passer à la suite. Alors maintenant, on va parler de planche à voile, parce que je trouve ça très sous-coté, la planche à voile. Voilà, petit coup de gueule, on en fait quoi de la planche à voile alors? Historiquement, la France est une des nations les plus titrées en planche à voile aux Jeux Olympiques, avec 49 médailles, dont 15 en or. Pour les derniers Jeux, à Rio, les Français étaient allés chercher 2 médailles d'argent avec Charline Picon et Thomas Goyard, ainsi qu'une médaille de bronze en duo. Et non, petit prank, j'ai dit que les derniers Jeux, ils étaient à Rio alors que non, c'était à Tokyo. Alors, là encore, il y a beaucoup de catégories car beaucoup de voiles différentes et il y a des différences techniques que je ne vais pas vous expliquer. Les épreuves sont toutes composées de régates en flotte qui opposent des bateaux identiques sur un même parcours. Il y a 10 à 12 courses dans une épreuve, au terme desquelles les équipages reçoivent des points en fonction de leur place à l'arrivée. Et donc celui qui a le moins, et je dis bien le moins, 2 points à la fin gagne. Là encore, on a quelques cartes à jouer, notamment celle de Charline Picon, la meilleure véliplanchiste en France, oui, on dit comme ça, déjà médaillée d'argent et d'or aux Jeux Olympiques et qui là fera les épreuves olympiques en tandem avec Sarah Steyaert. Alors, même si elles ont fini 6e des championnats d'Europe en 2023, elles se découvrent et progressent beaucoup plus rapidement que les autres, donc ça peut large le faire. Mais vraiment, c'est elle notre meilleure carte. Charline Picon est une légende internationale de ce sport puisque c'est la seule femme à être montée à 2 reprises sur un podium olympique. Il reste le surf et on aura fait à peu près le tour. Désolé pour les sports dont on n'aura pas parlé pendant ces chroniques, je suis vraiment confus. Allez, 1 minute de silence. Non, c'est trop long. Allez. Les épreuves de surf se dérouleront à Tahiti et vous pouvez pas être passé à côté. On a eu une grosse polémique avec la tour des juges en aluminium qui devait être construite dans l'eau et qui aurait pu gravement endommager les récifs locaux. Ça d'autant plus qu'il était censé avoir eau courante et évacuation des eaux usées. Forcément, les associations locales n'étaient pas contentes et on les comprend. On est capable de rediffuser en direct des surfeurs à l'autre bout du monde et on n'est pas capable de mettre 3 gugus sur une plage à 100 mètres de là. Bref, aujourd'hui on a une belle tour en aluminium et le courage a subi, je cite, des dommages minimes, mais c'est pas grave, les juges vont être aux premières loges. Vous le savez, hein, je suis un grand fan de sport, mais là franchement ça servait à rien de buter du corail pour ça, c'est un peu absurde, mais bon, ça va rendre bien à la télé. Donc pour le surf, les surfeurs s'affrontent en poule, puis en 1 contre 1 jusqu'à la finale. C'est seulement la 2e fois que le surf sera présent au jeu, donc on n'a pas trop de références. Et la France pourra compter sur Pauline Adot, Michel Bourrez et Jérémy Flores, qui ont tous 3 atteint la phase finale, mais qui se sont fait rapidement éliminer dans cette phase. Mais ils seront très revanchards à Tahiti, dans un spot qu'ils connaissent beaucoup mieux que leurs adversaires a priori, puisque c'est des Français. C'est tout pour moi, écoutez, voilà, maintenant a priori vous êtes prêts pour regarder les Jeux Olympiques. Normalement c'était la dernière chronique, mais vous inquiétez pas, on reviendra l'année prochaine. On va quand même parler d'actu, hein, parce que l'actualité est très dense en ce moment.
Bon, du coup c'est le moment d'annoncer qui est notre invité surprise, non ?
Gros guest. Hein.
Ah ouais, vraiment, big guest. Alors si vous nous suivez bien, si vous êtes des habitués du troisième lieu, vous devez connaître le studio 808. Donc nous avons, attention, qui ? Roulement de tambour. Zayan !
Ouais, très heureux d'être là, très heureux d'être ici. Un plaisir de découvrir une nouvelle émission. Bon, c'est pas aussi bien que le studio 808, mais bon.
Calme-toi, redescends.
Pour être la monteuse de studio 808, hein, attention. Hein.
On t'invite, tu ne fais pas non plus...
Que du positif, hein. Sinon attention,
J'ai bien aimé la chronique de Paul-Antoine en tout cas. C'est les blagues et tout, moi j'aime bien.
C'est vrai.
Ah ouais,
je suis honoré.
Du coup, l'actu, les gars, qu'est-ce que vous avez vu dans l'actualité que vous trouvez important, PA ?
Par quoi on commence ? Et moi je propose qu'on se mette tous d'accord pour haïr tous ensemble Max Verstappen et célébrer la victoire de Charles Leclerc.
C'est une bonne chose. Ah oui.
Écoute, oui, c'est vrai que je déteste aussi Max Verstappen. Mais en fait, non, c'est pas que je le déteste. Juste, voilà, on en a marre d'entendre l'hymne
des Pays-Bas. Néerlandais.
À chaque fois, on est fatigué. Et là, ça fait plaisir parce que là, c'est une victoire un peu du début jusqu'à la fin parce que la qualification. Il a été P1 et ça a continué avec la course. Au début, franchement, je me disais, même à Monaco, tout est possible. Verstappen, il peut remonter, on sait jamais. Mais là, ça va, c'était cool.
Parce qu'il est parti en quelle position ?
Verstappen ?
P6. Ouais. P6, ah oui, ok.
P6. En vrai, il y avait très peu de chances.
Bah, surtout que du
surtout
coup.
À Monaco.
Ouais, les rues de Monaco, elles sont trop étroites pour faire autant de dépassements. Donc c'était c'était compliqué pour lui de remonter, mais du coup c'est une bonne chose.
En fait, la plus grande peur de Ferrari, c'était eux-mêmes, quoi. Vraiment, il y avait qu'eux qui pouvaient un peu perdre.
On les connaît, ils sont capables de saboter. Hein,
voilà, exactement, ouais. C'est ça.
Bah, d'ailleurs, il s'est passé un sabotage dans une autre écurie.
Oui, Ocon et Gasly. Enfin, sabotage, je dirais pas ça. Je pense que Ocon a voulu un peu dépasser Gasly, de façon un peu illicite. Ça ne l'a pas réussi. Ça a en plus endommagé la voiture de Gasly. Donc je pense qu'en tout cas Drive to Survive va s'en régaler. Ils vont pouvoir faire un épisode entier là-dessus. Donc voilà.
Ouais.
On le rappelle, hein, ils sont censés être coéquipiers sur le papier. Hein.
Voilà, c'est ça, ils sont censés être coéquipiers. Mais non, en vrai, je pense que ça va entre eux. Mais là, il a assumé quand même l'erreur. Voilà.
Oui, et puis comme a dit Gasly, ça va être, ils vont en discuter et puis ça arrive, quoi.
Bien sûr, mais là, je pense quand même que c'est un peu le début de la fin pour Ocon.
Ça parle d'un départ chez Haas, a priori.
Je pense que c'est fini pour Ocon. Enfin, en tout cas, le directeur Bruno Famin parlait sur Canal et un peu réagit au crash et tout. Il avait l'air quand même très énervé contre Ocon parce qu'il savait que ça allait sûrement arriver, étant donné qu'ils étaient à côté au niveau des places. Et franchement, c'était l'erreur à pas faire, surtout quand t'es à... Gasly était déjà dans les points, Ocon il était à ça, tu vois, on sait jamais avec les ce qui se passe dans la course avec les pit stops, tout est possible, tu vois, tu peux peut-être gratter au moins une place pour t'assurer un point, et vu comment est Alpine en ce moment, ça aurait été bien quand même.
C'est vrai. Et est-ce qu'ils en ont parlé de qui pourrait le remplacer?
Alpine.
Ouais.
Alors Alpine, c'est un peu compliqué en ce moment parce que Alpine, c'est pas l'équipe qui donne très envie à rejoindre. Là, franchement, ça va être la poubelle un peu. Alpine va regarder ce qui reste comme pilote disponible et va prendre soit dans ses jeunes. Donc il y a Martins, voilà, dans son écurie.
Ça serait cool ça.
Voilà, en F2, ce serait cool, mais potentiellement peut-être pas le niveau.
Théo Pourchaire.
Oui, mais pour donner.
Théo Pourchaire, c'est Ferrari, non?
Ben, on s'en fout.
Ouais, ouais, mais bon, il y a les contrats et tout, donc je sais pas si c'est vraiment possible. Bon, est-ce que ça... Ouais, je sais pas si c'est convaincant.
On croise les doigts.
Ouais, mais ça pourrait être bien pour un peu de nouveauté, quand même.
Oui, bah, Gasly Ocon, au final, ça a pas autant marché qu'on l'espérait.
Ouais.
Je pense que Ocon, il aime trop la gagne, il aime trop la bagarre. Tu ne peux pas le contrôler, je pense que c'est pas... Déjà que... Alpine en ce moment, ça va pas très bien, l'organisation elle est catastrophique, je pense que les deux pilotes, hein. Enfin si Gasly trouve une écurie pour partir, même si là il va pas en trouver à mon avis, je pense qu'il le ferait. Hein. Là s'il prolonge, je pense sincèrement, c'est parce que sinon il va se retrouver sans rien.
Et qu'il va plus faire partie du top là.
Exactement, bah, Alpine n'est même plus coups, vraiment là. Dans le top. Hein. Là ah ouais. Alpine, quand tu te dis que Ocon veut aller chez Haas, c'est qu'il y a vraiment un problème dans l'organisation.
Ouais, c'est vrai, c'est dommage parce que c'est quand même Alpine quoi.
Oui, mais il y a vraiment eu un gros problème au niveau organisation. Là, on voit, ils changent de directeur tous les ans. C'est une catastrophe. Mais voilà, après, je pense que ça va prendre du temps. Ils vont peut-être réussir à remonter, on ne sait jamais. Hein. Tu vois des McLaren qui galéraient contre Alpine il y a un an, deux ans, même pas. Et là, ils sont monstrueux. On n'a jamais vu ça. Donc, tout est possible. En plus, il y a la nouvelle réglementation en 2026.
C'est quoi?
Alors, attends, comment je peux expliquer ça? En gros, il va y avoir un changement de moteur ou quelque chose comme ça, des changements de règles.
Ok.
Et du coup, en gros, tous les combien d'années?
Je crois que c'est tous les 3 ans, non?
Un peu plus peut-être, non? Parce que ça fait longtemps déjà qu'on est... Parce qu'en gros, je sais pas combien d'années, il y a une nouvelle réglementation et ils changent un peu le moteur pour rendre les courses un peu plus divertissantes, quoi. Pour qu'ils soient un peu plus serrés. Par exemple, là, on voit que Verstappen et Red Bull... Bah, ils ont compris comment marchait le moteur de cette génération. Ils l'ont trop compris, il n'y a personne qui peut les dépasser. C'est pour ça que le fait de rajouter des règles, des réglementations...
Ouais, des contraintes.
Voilà, ça remet un peu le dé en jeu.
Ok, bon bah...
C'est pour ça que justement, il y a des rumeurs que Verstappen pourrait partir de Red Bull, parce que apparemment, un bruit de couloir après, hein, mais que Red Bull ne serait pas vraiment à la hauteur de ces réglementations qui vont arriver, il ne serait pas encore assez préparé.
Ooh.
Tandis que chez Mercedes et Ferrari, à mon avis, ça se prépare très fortement.
Ouais, enfin, ils sont toujours en avance.
Oui, ils sont toujours en avance, mais après, il faut pas oublier qu'il y a des temps de soufflerie. Alors, temps de soufflerie, c'est quand, en gros, si tu finis dernier, tu as plus de temps de soufflerie, plus de temps d'entraîner ton futur moteur pour ensuite être meilleur.
Ok.
Donc là, c'est pour ça qu'à mon avis, beaucoup d'équipes sont déjà direction la nouvelle réglementation, en fait.
Ok, ok. Ensuite.
Ensuite, on a un sujet dont on doit parler, que tu as d'ailleurs évoqué dans ta chronique, Céleste.
Effectivement.
C'est forcément Roland Garros.
Ouais, c'est vrai.
Roland Garros, donc au moment où sortira cette chronique, ça sera terminé. Donc du coup, on ne va pas se permettre de faire une revue des résultats, même s'il y a un petit match dont on va peut-être un peu parler quand même.
Oui, un petit peu, quand même. Ouais, il y a quelques défaites, hein, quand même.
Ouais.
Il y a quand même trois trucs. Hein.
Genre une légende qu'aurait gagné, pourquoi pas, 14 fois, mais...
Ouais, 14 fois. Ça me dit quelque chose. Attends, de toute façon, on va en parler. On va faire quand même une petite revue du premier tour, parce que nous, actuellement, dans le temps, nous sommes au niveau du premier tour. Alors, lundi dernier, le 27 mai, il y a eu un match que tout le monde attendait, parce que, bon, un match pareil des premiers tours, c'est plutôt assez rare. Donc, c'était qui, en fait, PA?
C'était un drame, d'abord, pour l'histoire du tennis.
Ah ouais?
Rafael Nadal face à Alexander Zverev.
Au premier tour, quand même.
Au premier tour de Roland-Garros. Et hélas, l'Espagnol, il s'est incliné face au numéro 4 mondial. Alors, on pouvait s'y attendre.
Oh, c'était quand même prévisible.
Ouais, on pouvait s'y attendre, c'était prévisible. Mais il n'empêche que c'est quand même un choc pour l'histoire du tennis. Exactement, un drame. Parce que c'était certainement son dernier Roland-Garros. Même s'il a ouvert la porte potentiellement à un retour l'année prochaine, assez mal barré.
Et qu'il a refusé justement les hommages. Et justement, Amélie Mauresmo en a parlé aux infos en disant que « Ah, pour finir, il a changé d'avis, nanana. » En mode petit coup de gueule.
Donc voilà, on peut croire à un retour. Ouais. Ou alors juste, il veut attendre les Jeux Olympiques pour faire vraiment un départ digne de ce nom.
À voir.
Mais en tout cas, voilà, même s'il a perdu en 3-7, l'Espagnol, il a montré quand même un plutôt bon niveau de jeu. C'était un match très intéressant. Et voilà, ça laisse espérer une suite pour la carrière de Nadal.
À voir, on verra, le temps nous le dira.
Mais toi, Céleste, qui tu penses va gagner Roland-Garros cette année ?
Franchement, c'est une très bonne question. Comme on en a discuté notamment, enfin PA du coup tout à l'heure, où on se disait cette année, en vrai, c'est quand même la chance aux outsiders.
Il y a de la place.
Quand on dit outsider, c'est pas des joueurs inconnus top 100 mondial, mais disons, on pensait aux joueurs qui malheureusement n'arrivent jamais à dépasser les Alcaraz.
Les quarts, demi-finales, ouais, etc.
Les joueurs qui sont quand même très bien topés, genre top, même limite dans le top 10, mais qui n'arrivent jamais à atteindre cette finale et à gagner ce grand chelem parce qu'il y a toujours plus fort qu'eux à la fin.
On peut en citer plusieurs. Hein. Ouais. Il y a Tsitsipas notamment.
Ah ouais.
Casper Ruud.
Ouais.
Casper Ruud, déjà double finaliste, hein, donc on sait que vraiment sur Roland-Garros, il peut tout faire.
Casper Ruud peut faire quelque chose.
Et évidemment, Zverev, dont on a déjà parlé, qui a éliminé Rafael Nadal. Et on sent que ça peut être son année à l'Allemand.
Rappelons que Zverev est actuellement en procès pour violence contre son ex-femme. Donc, petit disclaimer sur cette personne. Bien sûr, on laisse la justice faire son travail.
Mais ne le supportez pas trop fort non plus. Non, tant qu'on ne sait pas, quoi.
Supportez Alcaraz, les gars. Donc, du coup, peut-être la chance aux outsiders cette année. Donc, toi, parmi les outsiders, tu vois qui, en fait ? Tu vois qui ?
Moi, en vrai, je vois Ruud. Hein.
C'est vrai ?
Ah bah, Ruud, je l'ai dit, hein, il est déjà double finaliste. Il fait une super saison de terre battue. Franchement, je pense qu'il peut claquer Roland cette année.
Ouais,
il ne fait pas de bruit, voilà. Il a gagné son premier match tranquillement. Ça peut le faire. Hein.
Peut-être une petite... Attends, je ne sais pas du tout s'ils vont se croiser avant, mais... d'ailleurs, tu pourras peut-être me le dire, une finale Alcaraz-Ruud, ça serait possible, tu penses ?
Effectivement, ils ne sont pas dans la même partie de tableau, donc ce serait une finale Ruud-Alcaraz.
Ok, donc c'est possible. Moi, j'y crois. Ça serait même plutôt très intéressant.
En vrai, ça fait grosse finale.
Prochaine actu.
Alors, on va parler de Toulouse. Toulouse en rugby qui a remporté la Champions Cup au bout de la prolongation. Et voilà, ils surdominent l'Europe au niveau rugbystique. Donc voilà, ça fait plaisir, même si c'est pas le loup rugby, ça fait plaisir quand même que ce soit un club français qui est dominé le Leinster en finale.
Donc ensuite, autre actualité, on peut peut-être parler du Barça.
Du Barça, oui. Alors on savait pas trop, Xavi, je reste, je pars, il a beaucoup mis des doutes. Mais finalement, on sait qu'il va partir et c'est finalement Hansi Flick, l'ancien sélectionneur de l'équipe allemande, qui va le remplacer sur le banc du Barça. Qu'est-ce que vous en pensez, les loulous ?
Bon courage. Je pense sincèrement qu'en ce moment, Barça, c'est la catastrophe. Bah en fait un peu comme Alpine. Moi je parle que des catastrophes, je suis là pour ça. Écoute, on va voir ce qu'il va pouvoir faire. D'ailleurs, Xavi il a parlé de la nomination d'Hansi Flick. Il a dit, attention, hein, je cite, qu'il sache que la situation est difficile avec une situation financière défavorable, il va souffrir, c'est un poste très compliqué.
Waouh, quelle surprise. Voilà, on savait pas.
Ça donne très envie. Ça donne très envie.
Ah ouais, franchement super.
Mais en vrai, quand on regarde quand même l'effectif du Barça, on se dit qu'il y a moyen de faire sportivement quelque chose de pas si mal.
Bah, ça reste le Barça, il y a la Masia, enfin, je veux dire, ils ont quand même de jeunes talents auxquels il faut faire quelque chose avec, je pense. Que...
Bah, jeunes ou moins jeunes, hein, même si tu regardes genre Ter Stegen et tout, même Lewandowski, ils ont un super niveau.
Ça reste des cadres. Après Lewandowski, je trouve que...
Mais il faut pas regarder juste les stats.
Ouais, non, mais en fait, c'est pas ça. Genre, dans les grands matchs, il est... rarement...
Tu prends les matchs contre le PSG, je suis désolé, il était omniprésent, Robert Lewandowski.
C'est vrai, si. Ah oui, là, la Ligue des Champions,
il
était là.
Non, faut pas cracher sur Robert.
Ouais, non, il y a une limite quand même. Hein.
Déjà, il va gagner l'Euro avec la Pologne.
Non. Pas. on va se faire aligner contre la Pologne, tu verras. Alors, on va te retrouver, Paul.
Comme avec la Suisse.
Après la Suisse, la Pologne.
Et touche du bois, là, karma, c'est sûr. Alors, donc on va rebondir, on va rester sur du football. Il y a aussi eu la finale de Ligue des Champions féminine. Là, le week-end dernier.
Il faut pas en parler de ça.
Ouais, bref.
On est tous encore meurtris.
Ouais, mais bon, il faut quand même. Il faut qu'on tienne l'actu. C'était une bonne défaite pour les Lyonnaises. Une bonne grosse défaite. 2-0 contre eux. Bah, justement, le Barça. Parce que même si c'est le foutoir chez les mecs, chez les femmes, ça marche très bien. Et c'est de mieux en mieux. Chaque année, chaque saison, elles sont de plus en plus fortes. Elles roulent sur tout le monde. Vraiment, elles roulent sur tout le monde. Sur le championnat espagnol. Même la sélection espagnole, parce que bon, au Barça, t'as quand même une majorité d'Espagnols dedans. Bah, elle roule sur tout le monde aussi. Hein.
Bah, voilà. Elles ont le Ballon d'Or aussi.
Ouais, Ballon d'Or, dernière Coupe du Monde. Bref, les Espagnols, elles sont trop fortes, vraiment. C'est plus nous, les Françaises, malheureusement. Enfin, les Françaises, l'OL.
Oui, mais après, il faut se poser la question de pourquoi. en fait.
Ouais.
Le Barça, et qu'est-ce qu'ils font avec l'équipe féminine?
Plein de nouvelles pépites, en fait. Déjà, tu as eu énormément de transferts en direction du Barça. Donc, très bon recrutement. Et puis, tout simplement, genre, vraiment, pour moi, c'est la montée en puissance des Espagnols. C'est vraiment une montée en puissance des Espagnols. Et tout simplement aussi, les Lyonnaises, elles sont beaucoup moins performantes qu'avant. Alors, encore une fois, à nuancer, hein, elles sont quand même premières de Ligue 1. Elles roulent sur...
Ouais, après, il y a le PSG pas si loin.
Le PSG est pas si loin, même si elles n'ont pas fait leur meilleure saison aussi, je trouve, le PSG. Alors, disons, c'est... Ouais, les équipes françaises, elles sont un peu en déclin. Étonnamment, il y a des nouveaux acteurs qui viennent titiller les clubs français. Bah, pareil, même en Angleterre, hein, la première ligue, on s'en rend pas compte, mais elle est hyper performante ces derniers temps. Elle attire énormément de joueuses. Et ouais, du coup, il va falloir redynamiser tout ça. Et on espère que les nouvelles avancées dont j'en ai parlé le mois dernier vont se faire et que ça va permettre de concurrencer ces ligues-là. Parce que bon, là, on veut du spectacle, nous, en fait.
Et il y avait aussi, du coup, bon, la finale de Coupe de France qu'on a évoquée. Avec l'OL qui a perdu en finale face au PSG, on pouvait s'y attendre. Hein.
Mmh. Surprenant.
L'OL masculin, bien sûr.
Un dernier trophée pour Kylian Mbappé avant un départ au Real, a priori, bon.
Ouais. Je pense qu'il ne va pas manquer de trophée là-bas, je pense. Pas
non, non, non. Et bon. Si quand il arrive là-bas, il se met à plus gagner la Ligue des Champions...
Mais oui, c'est plutôt bien pour lui de partir sur note positive, sachant qu'avec la Ligue des Champions, le dernier match en Ligue 1... C'était pas ouf, enfin vraiment, il était vraiment sur une note négative.
Je veux dire, les derniers matchs, tous ces derniers matchs, ouais. Dernièrement,
catastrophique.
Ouais, en fait, depuis qu'il a dit est-ce que vous voyez un gars perturbé, il est perturbé. Depuis ouais. Vraiment cette citation, ça l'a
maudit.
C'est
vrai. Mais oui, du coup, voilà, au moins il est parti sur une note positive. Après, il fallait pas s'attendre à. Enfin, c'était sûr, franchement, je les voyais pas perdre contre l'OL. Ça allait être contre la dynamique, enfin, quoi que l'OL, ils font une très bonne seconde saison. Hein, j'ai rien
L'OL, il y a une stat, l'OL a plus gagné que le PSG.
Ouais, c'est eux qui limitent, en fait, si tu faisais juste un classement de la seconde partie de saison, ils étaient premiers.
Oui, non, c'est ça, ils étaient premiers.
Hein. Ouais, et voilà, donc bravo à l'OL quand même. Hein. Mais bon, voilà.
Leur remontée est incroyable.
On les voyait déjà se disputer le stade avec Taylor Swift le 3 juin, là, ou le 2 juin. Donc, non, c'est pas le cas, donc heureusement. Ensuite.
Enfin, moi, il y a un dernier sujet que je veux aborder, c'est le Tour d'Italie. Le Giro en cyclisme qui s'est terminé sur la victoire d'un homme, d'une légende, d'un monstre absolu, Tadej Pogacar, qui s'est imposé avec près de 10 minutes d'avance sur ses adversaires, ce qui est absolument énorme. Le Slovène a surdominé la course, mais pour autant, c'était quand même une course intéressante, notamment grâce à des coureurs offensifs, comme un double champion du monde nommé Julien Alaphilippe, français, qui a remporté la 12e étape du Giro. Et ça montre un regain d'énergie pour Julien Alaphilippe, lui qui a connu quelques saisons un peu galères. Donc là, cette victoire sur le Tour d'Italie qui lui manquait, il n'avait encore jamais fait le Tour d'Italie. Ça fait vraiment plaisir. Et il y a même Remco Evenepoel, le leader de sa formation pour le Tour de France, qui insisterait pour l'avoir sur les routes du Tour de France avec lui. Mais on va pas se mentir, c'est vraiment une idée de merde, puisqu'il a les Jeux Olympiques 2 semaines après. Mais voilà, affaire à suivre.
Affaire à suivre, et très contente aussi de voir Alaphilippe de retour. Et Pogacar, comme on en avait parlé le mois dernier, c'était prévisible.
Ouais, clairement. Après 10 minutes, c'est vraiment beaucoup. C'est vraiment beaucoup.
Il a roulé sur tout le monde, c'est une dinguerie.
Clairement.
Bon, je crois qu'on a fait le tour.
Non, déjà là ?
Ouais. Et donc, on va pouvoir conclure. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la saison prochaine pour un nouvel épisode des Athlètes.
Après, je tiens à dire que c'est pas parce qu'il n'y a pas de podcast qu'il n'y a pas de contenu. On le sait, cet été, ça va être fou, ça va être dingue, ça va être la folie.
Oui, suivez-nous sur Instagram, le troisième lieu, vous trouverez facilement.
Il y a plein de surprises qui arrivent.
Ouais.
Amusez-vous bien, passez des bonnes vacances.
Bisous, bisous.
Bisous. Bisous.